le Sénat a adopté le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Banque Centrale du Congo. Principale innovation dans cette nouvelle loi, la gestion collégiale de l'autorité monétaire. Et puis les organisations de la société civile ont été d'un grand apport dans la mise en œuvre du processus ITU en RDC. C'est ce que dit un rapport du Centre Carter présenté aujourd'hui à Kinshasa. Bonsoir. Le Sénat envisage des profondes réformes de la Banque Centrale du Congo, BCC. Au cours de la présentation vendredi du rapport de la Commission économique et financière, le Sénat a adopté les projets de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Banque Centrale du Congo. Parmi les innovations apportées par ce nouveau projet de loi, on peut citer la gestion collégiale de la Banque Centrale du Congo. Michel Kifinangoy nous en dit plus.
Ce projet de loi préconise des réformes profondes dans l'organisation et le fonctionnement de la Banque Centrale du Congo, affirme le président de la Commission économique et financière du Sénat, Mabi Mulumba.
Il y a des innovations. Maintenant, il y a la gestion collégiale. Maintenant, il y aura un gouverneur, deux vice-gouverneurs. On a monté le nombre de membres du comité de conseil à 13. Et en même temps, le mandat du gouverneur, c'est deux mandats non renouvelables.
Florentin Mokonda Bonza salue le fait que la nomination du gouverneur de la BCC n'est plus du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État seul.
Le président de la République va nommer sur proposition du gouvernement et cette proposition est délibérée en conseil des ministres. C'est déjà une avancée significative pour éviter que ce soit le clientélisme qui prenne le pas sur les réelles compétences.
Pour sa part, le sénateur Moulaï Latenga plaide pour que le Parlement et la FEC soient représentés au sein du conseil de la BCC.
Que le Sénat soit représenté, que l'Assemblée nationale soit représentée, que même la FEC soit représentée puisque productrice de recettes. Les hauts fonctionnaires qui doivent être nommés comité de direction, il faut que cela provienne des directions clés.
Après débat et délibération du dit rapport, le projet de loi a été adopté, dûment quelques amendements apportés par la plénière.
Et puis dans les trois nouvelles provinces issues du démembrement de l'ex-province de Bandundu, les attributeurs du cantonnage manuel de quelques routes réclament à l'office des routes les paiements de 5 mois d'arriéré des salaires de cantonniers et disent être menacés par ces derniers qui promettent de barricader ces routes et d'empêcher toute circulation des véhicules jusqu'à l'apurement de leur litige. C'est ce que nous dit Fabien Kamézi dans ce reportage.
Ces attributaires, plus d'une vingtaine qui n'ont pas reçu les fonds pour les paiements des salaires de leurs cantonniers pour le mois de février, juin, juillet, août et septembre 2016, disent ne rien comprendre de ces retards de paiement alors que sur le terrain, les travaux ont été bel et bien exécutés. Dans un récent courrier adressé à la direction générale de l'Office des routes à ce sujet, dénonce la pratique de deux poids deux mesures voulue par le ministère des ITPR qui vient d'instruire, selon eux, les DG des fonaires partenaires de l'Office des routes de liquider la totalité des litiges des cantonniers, des députés, attributaires, alors ces cantonniers sont les mêmes et travaillent tous pour la nation, ont-ils révélé. Ces attributaires sont surpris de l'annonce de la suspension des travaux de manière unilatérale alors que leur contrat court encore et que les litiges ne sont toujours pas payés. Du côté Office des routes Bandundu, du moins celui des routes Bandundu Nord que nous avons eu au téléphone a promis de nous répondre dans quelques minutes, après consultation avec son chef, qui quitte Fabien Kambizi, Radio Okapi.
Autre actualité, les opérateurs économiques de la cité des Mwanda dans le Congo central dénoncent les tracasseries au niveau de tous les postes frontaliers de cette contrée du Congo central. Nous sommes à 200 km à l'ouest de Matadi. Selon un des porte-parole des vendeurs du poste frontière de Yema, ces tracasseries sont devenues trop présentes à cause du retour en grand nombre de tous les services autrefois interdits d'opérer au poste frontalier de la RDC. Georgine Mpala pour les détails.
Un des porte-parole des opérateurs économiques de Mwanda affirme qu'aujourd'hui, il y a au moins 15 services au niveau de poste frontière de Mwanda qui sont Lindou, Yema, Yach, Malongo et Bitch. Ces postes frontaliers sont donc envahis par les agents des services de sécurité et publics République qui exige des frais supplémentaires pour entrer ou sortir du territoire national avec marchandises. Des nouvelles taxes sont exigées par ces services. Si vous ne payez pas, la marchandise ne passe pas. Les montants à payer varient entre 2000, 5000, voire même 100 000 francs congolais par camion, selon la même source. Les opérateurs économiques de Moanda, à travers Josué Mayala, un de leurs porte-parole, demandent au gouvernement de faire appliquer le décret du chef de l'État de 2011 fixant à 5 le nombre de services devant opérer au niveau des postes frontières de la RDC. Cette situation est aujourd'hui à la base de la hausse de prix de certaines marchandises sur le marché, indique la même source. L'État est donc dans l'obligation d'aider les opérateurs économiques pour que ces services non autorisés quittent ces postes frontaliers. Matadi, Guy Roger Niampala, Radio Okapi.
Écho d'économie.
Je le disais également au sommaire, la société civile a joué un important rôle dans la mise en œuvre du litige en RDC. Cette contribution se mesure par la dissémination de rapports ITIE, contribution à l'élaboration de rapports et à l'évaluation périodique de la mise en œuvre du processus. Le coordonnateur de l'ITIE RDC, le professeur Marc Doumba, reconnaît cet appui de la société civile dans cet entretien avec Danette Mizoni.
Les activités de la société civile dans la mise en œuvre sont capitales. Et je dois imaginer ça en disant que les entreprises, vous savez que l'ITIE est tripartite. Il y a le gouvernement, les entreprises et la société civile. Les deux premières parties sont des parties déclarantes. Et le gouvernement dirige la mise en œuvre. Mais la mise en œuvre n'avancerait pas s'il n'y avait pas la société civile. Et la société civile, c'est le moteur du véhicule. Quand vous pouvez avoir du carburant, vous pouvez avoir la carrosserie, mais quand il n'y a pas de moteur, ça ne peut pas avancer. Et donc, nous disons que ça nous apporte beaucoup plus. Et si aujourd'hui, le processus ITIE en République démocratique du Congo est mieux vu à l'extérieur, mieux coté, et nous avons de la considération parce que la société civile de la République démocratique du Congo mène des activités qui permettent à ce que le processus reste debout. La société civile est vigilante, la société civile conseille, la société civile attire l'attention des autres parties prenantes, la société civile corrige, la société civile est capable d'évaluer le processus. C'est ça, donc en conclusion, l'apport est de première importance et très nécessaire. C'est ce que nous retenons.
Une illustration de quelques activités qui vous ont vraiment servi.
Oui, par exemple, vous savez que c'était très difficile à l'époque, il y a 4 ans, de connaître exactement les maillons du contrat sino-congolais de Sicomine. On ne pouvait pas savoir exactement qu'est-ce qui était venu, parce que c'est un contrat de type troc. Il y a des infrastructures qui sont réalisées avec le prêt que nous avons reçu. Et lorsque la Sicomine va commencer à produire, déjà elle a commencé, nous allons vendre et restituer l'argent qui a servi aux infrastructures et aussi aux projets mines. Et donc, pour que nous soyons au courant de cela, il a fallu que la société civile pèse de tout son poids, que la société civile fasse des arrêts de participation au processus ITIE, parce que nous étions prêts d'être suspendus. Et à cause de cela, le chef de l'État a autorisé, avec le Premier ministre, qu'on nous mette au courant exactement du contrat sinon. Ça, c'est capital pour nous. C'est capital aussi la lecture des rapports ITIE par la société civile et la critique qu'ils effectuent sur la qualité et sur le contenu des rapports. Et ça nous apporte que nos rapports sont les meilleurs aujourd'hui dans le monde.
Et si je regarde rapidement dans les recommandations de chercheurs, quelque part, on vous demande de vulgariser encore beaucoup. Il faut beaucoup vulgariser l'ITIE sur l'ensemble du territoire national.
Oui, c'est très important.
Vous ne l'avez pas encore fait.
Nous le faisons tous les jours. La dissémination des rapports a un coût. Et vous savez qu'aujourd'hui, il faut le dire, notre pays a des difficultés d'ordre financier. Il ne faut pas que nous puissions nous leurrer, que nous sommes capables d'aller sur les 144 territoires du pays pour vulgariser l'ITIE. Les moyens se sont amoindris, mais au fur et à mesure, c'est un processus. Nous n'avons pas un terme comme à l'école pour dire à la fin de l'année, c'est fini, vous devez passer des classes. Nous continuons le processus d'une manière ou d'une autre à vulgariser et nous pensons que nous y parviendrons dans un temps, même si ce n'est pas en 2020, mais au-delà, mais nous arriverons à vulgariser l'ITIE à travers tout le territoire national.
Professeur Makdumba, merci.
Merci beaucoup, mon ami.
Pour terminer, les agents de Tenkefungoumbe Mining ont repris le travail aujourd'hui, c'est là après un arrêt d'une semaine. Selon les délégués syndicaux contactés ce lundi matin, cette reprise a été rendue possible suite à la signature le week-end d'un accord qui reprend les principales revendications des travailleurs. L'employeur a accédé à certaines d'entre elles. C'est entre autres la révision à la hausse du barème salarial et la hausse des avantages supplémentaires sur la pécule du congé et la révision des heures de travail. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de nous avoir suivis.